Deutsche Welle Magazine Santé. Au menu du magazine Santé cette semaine, le don et la transplantation de tissus ou d'organes humains. Dans plusieurs pays, notamment africains, le sujet reste délicat. Nous irons en Algérie où le corps médical est confronté, entre autres, au déficit de donneurs d'organes. Puis en seconde partie d'émission, il sera question de l'endométriose. Bonjour à tous, vous écoutez le magazine Santé, Carole Assignon au micro. Cœur, foie, rein, poumon, autant d'organes dont on peut faire don. Des organes qu'on peut prélever pour traiter des personnes gravement malades. Le prélèvement, qui peut également concerner des tissus du corps humain, se fait soit sur des personnes vivantes ou des personnes décédées. Tout dépend de l'organe que l'on doit prélever. En raison de la délicatesse du sujet, la législation du don d'organes dépend de chaque pays. On peut en effet décider ou pas de faire don de ses organes et les trafics ne manquent pas. Outre la loi, la religion s'invite également dans le débat sur le don et la transplantation d'organes. Sans s'y opposer formellement, la plupart des grandes religions insistent sur le respect de la vie. Et c'est pour sauver des vies justement qu'en Algérie, des voix s'élèvent pour attirer l'attention sur la question du don d'organes. Avec plus de 10 000 patients en attente, dont des femmes et des enfants, la liste des personnes ayant besoin d'une transplantation d'organes est longue dans le pays. Même si ces dernières années des progrès ont été enregistrés, l'offre reste toujours inférieure à la demande, ce qui continue de poser pas mal de problèmes. Sur le sujet, écoutez les précisions de Tarek Draoui depuis Alger.
Faire une greffe en Algérie n'est pas aussi facile. La liste d'attente des malades est longue. Plus de 10 000 cas selon le professeur Rayan Tahar, spécialiste des néphrologues à l'hôpital Parné d'Alger. Une liste allongée qui est aussi due à l'absence de greffe sur le cadavérique.
L'accès à la transplantation rénale en Algérie se pose pour l'ensemble des patients. Parce que nous avons une liste d'attente estimée à 10 000 patients qui n'ont pas de donneurs. Par contre, les gens qui ont des donneurs, donc les insuffisants rénaux chroniques dialysés qui ont des donneurs, l'accès à la greffe ne se pose pas. Donc l'accès à la greffe rénale en Algérie se pose pour les patients qui n'ont pas de donneurs vivants, apparentés, et qui attendent un greffon à partir d'une personne décédée.
Mais ce n'est pas le cas. Contrairement aux pays européens, ici, pas de consentement présumé. Question de culture, dit le professeur, de culture et non de religion.
Qu'on soit très clair sur le problème religieux, la religion musulmane permet la transplantation rénale à partir de personnes décédées. Dans ce domaine-là, il n'y a aucun problème. On ne peut pas obliger les gens à donner leurs organes après leur mort, puisque dans la religion musulmane et en Algérie, le corps appartient toujours à la famille. Donc si le corps appartient à la famille, automatiquement on a besoin de l'accord de la famille quand il y a une mort encéphalique.
Sensibiliser, mais cela risque de prendre du temps. Entre-temps, des malades souffrent, ils attendent depuis plusieurs années. Comme Farid, un malade en dialyse depuis plus de 2 années.
Cela fait plus de 2 années que j'attends un donneur. C'est difficile de trouver, il n'y a pas de liste d'attente. Vous pouvez attendre plusieurs années, parfois jusqu'à la mort.
Attendre, pour le docteur Atou, maître assistante, il faut obligatoirement passer au cadavérique. Et la raison est toute faite.
On doit faire du cadavre, c'est pas juste vouloir le faire, c'est vraiment, on est dans l'obligation de le faire. Pourquoi ? Parce que déjà, on a des difficultés à trouver des donneurs. C'est pas que en donneur vivant, il y a des problèmes de compatibilité. Parfois, on récuse les malades, donc ils n'ont plus de donneurs. Alors imaginez des enfants, et je m'axe surtout sur les enfants, des enfants ou des adolescents qui n'ont pas de donneurs, donc ils se retrouvent en dialyse, et on sait très bien qu'il y a de multiples complications en dialyse, donc on doit trouver des solutions pour ces patients. D'une part, deuxième composante, on ne doit pas négliger le fait que oui, le greffon a une durée de vie. C'est vrai qu'il a tendance maintenant à s'allonger, mais si on considère qu'une durée de vie est de 10 à 15 ans, si un patient, un jeune enfant, est greffé à 8 ans, on peut considérer qu'à 18 ans, il peut perdre son greffon. C'est quelque chose de normal et ça fait partie des pratiques quotidiennes, que ce soit ici ou ailleurs.
Car contrairement à l'idée reçue, la greffe sur tout rénal ne concerne pas que les adultes. Et le docteur Atou pense que le corps médical algérien est très bien rodé pour passer à l'étape du cadavre. Une expérience acquise sur plus de 30 ans, comme le rappelle le professeur Alayen.
L'Algérie a commencé en 1986 et depuis cette date-là jusqu'actuellement, on est presque arrivé à 2000 greffes rénales faites à partir de donneurs vivants apparentés. Il y a eu, je crois, 10 ou 11 greffes faites à partir de personnes décédées. La première a été faite en 2002 à Constantine. Chaque année, l'Algérie fait à peu près entre 200 à 250 greffes.
2000 greffes sur 30 ans, le chiffre reste très bas, reconnaît néanmoins le professeur. Il annonce que si le programme en place soit respecté, on pourra atteindre les 500 greffes par an. C'est ce qui serait déjà pas mal et surtout qui pourrait éviter à la sécurité sociale des dépenses en devise pour les soins à l'étranger. Tarek Dalaoui à Alger pour la Deutsche Welle.
Vous êtes toujours à l'écoute du magazine Santé et c'est d'un tout autre sujet qu'on va parler à présent. Un tout autre sujet, mais qui reste tout de même aussi délicat que la question du don d'organes, puisque l'endométriose dont il va être question reste une maladie gynécologique globalement incomprise. On la définit généralement comme la présence de muqueuses utérines en dehors de la cavité utérine. La maladie fait actuellement toujours l'objet de recherches, du coup la diagnostiquer et la traiter n'est pas toujours évident. L'endométriose est à l'origine de près de la moitié des règles douloureuses. C'est donc surtout lors des menstruations que les femmes qui souffrent de ce mal ressentent son effet. Fatima fait partie de ces dernières et elle a bien voulu nous en parler.
Ça a commencé par des douleurs très atroces. Chaque mois, j'étais pliée en quatre de douleurs. Et souvent, ces douleurs, c'est lorsque vous avez, lorsque j'avais, je veux dire, les menstruations et même au moment de l'ovulation. Donc, disons que tout le mois, pratiquement, c'était des douleurs. C'était des douleurs à n'en plus finir, hein, des douleurs atroces. C'est comme si on comprimait un peu l'endomètre et surtout tout le bas-ventre. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et quand je me suis rendue dans une formation sanitaire, j'ai consulté un médecin. On m'a parlé tout d'abord d'un kyste ovarien. D'un kyste ovarien, après c'était un myome, et on n'avait pas vraiment de nom pour mettre sur cette douleur, parce que c'était tellement atroce qu'on n'avait pas de précision, et donc on me parlait soit de kyste ovarien, soit de myome sans certitude.
La douleur, c'est un mot qui revient souvent chez les personnes qui souffrent de l'endométriose. Comment vous arriviez à gérer cette douleur?
Waouh, pour tout vous dire, vraiment, si je dis qu'on arrive à gérer, c'est mentir, parce que c'est tellement douloureux, la douleur est indescriptible. Je ne sais pas comment vous la définir, parce que vous ne pouvez rien faire, vous êtes plié en quatre, et vous attendez que ça passe, et vous êtes obligé de prendre souvent les antalgiques qu'on nous prescrit. Mais ces antalgiques même, c'est juste que ça calme un tout petit peu. Ça calme un tout petit peu. La douleur ne part pas tout de suite, ça ne part pas forcément. Et ça peut durer des jours et des jours. Et c'est comme ça, hein, avec l'endométriose, ça rime avec douleur, voilà.
Vous le disiez tout à l'heure, vous vous êtes rendu dans un centre de santé, vous avez consulté des médecins, mais on n'a pas pu mettre un nom sur le mal dont vous souffriez. Finalement, comment ça s'est fait pour que vous sachiez que vous souffrez d'endométriose ?
Voilà. J'ai eu la chance de venir en France rejoindre mon mari. Et donc, tout de suite après mon arrivée, la première des choses qu'on a faites, c'était de nous rendre également dans un hôpital ici pour comprendre un peu ce qui se passe vraiment. Parce que ça a trop duré, c'est ce que je me suis dit. Depuis 2007, j'en souffrais. Et malheureusement, au pays, chez moi au Togo, je n'ai pas eu gain de cause. Et je traînais la douleur comme ça. J'étais obligée de rester à la maison au moins 2 ou 3 jours. Et ça empiétait véritablement sur le travail. Donc, c'est pour vous donner une idée de cette douleur-là et qui ne vous permet de rien faire, quoi. Vous êtes là, vous souffrez, vous prenez les calmants, les antalgiques, mais la douleur persiste. Quand je suis venue en France, la première des choses faites, c'était de me rendre également dans un hôpital. Et c'est là où on m'a demandé de faire une échographie. Et plus poussé encore, l'IRM. Et donc, ce sont ces deux analyses qui ont révélé des nodules que j'avais au niveau de l'endomètre, au niveau de l'utérus. Et c'est là où le docteur m'a parlé pour la première fois de l'endométriose.
Outre la douleur que nous décrivait tout à l'heure Fatima, l'endométriose entraîne également des problèmes d'infertilité. La semaine prochaine, nous continuerons de parler du sujet. Et si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à nous les faire parvenir à l'adresse français@dw.com. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. Merci de votre fidélité et à la prochaine. Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end. But I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream. Well, life will pass me by if I don't open up my eyes. So that's fine by me. So wake me up.